Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Dans la série que nous continuons aujourd'hui, nous suivons le cheminement spirituel de l'apôtre Pierre, tel qu'il nous est révélé dans les Actes des apôtres.
Quelques émissions auparavant, nous avons déjà rencontré Pierre à travers notre lecture des Évangiles. Et cette nouvelle série reprend donc la suite de son parcours.
Tout d'abord, nous allons écouter une lecture biblique relatant un événement survenu dans la vie de l'apôtre Pierre. Puis nous enchaînerons avec une interview imaginaire où notre invité Étienne jouera le rôle de l'apôtre Pierre.
Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains. » Tout ce que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les encourageait leur disant, « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. »
Vous venez d'écouter un extrait du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 40. Pierre, bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à tous.
Pierre, lors de votre prédication en ce jour de Pentecôte, vous avez exposé à la foule les arguments prouvant que Jésus est véritablement Seigneur, qu'il est celui envoyé par Dieu pour accomplir toutes les promesses des prophètes. Oh, nous venons de lire que suite à vos paroles, la foule fut profondément touchée.
Oui, l'Esprit de Dieu a agi dans les cœurs. Il a éclairé les pensées de ces hommes et de ces femmes présents dans la foule. En effet, ils furent profondément touchés par le message de l'Évangile. Ils réalisèrent qu'ils étaient responsables de la crucifixion de Jésus-Christ, qu'ils avaient rejeté l'envoyé de Dieu et approuvé sa mise à mort. Ils avaient abandonné Jésus entre les mains de l'occupant romain.
Et puis, selon le texte lu, ils se sont demandé « Que devons-nous faire ?»
Réalisant la gravité de leur offense, ils devaient craindre la réponse de l'Éternel. Ils devaient s'attendre à être jugés et condamnés pour leurs crimes contre le Seigneur de l'univers. Ils devaient se sentir impuissants et dépourvus de solutions devant l'énormité de leurs actes.
Et pourtant, Pierre, vous ne leur avez pas annoncé un message de jugement.
Non, et c'est bien cela le plus merveilleux. Le Seigneur nous a confié une bonne nouvelle, un formidable message d'espoir qui s'adresse à tous, même à ceux et celles qui ont commis le pire des péchés. Il est possible de recevoir le pardon de Dieu, et par là même, le don de l'Esprit.
Pour obtenir ce pardon, vous avez dit à ces personnes qu'elles devaient changer. Dans cette traduction de la Bible, nous rencontrons plutôt le verbe « repentez-vous ». Que vouliez-vous dire?
Il nous faut changer d'attitude envers Jésus. Nous pouvons adopter toutes sortes de pensées à son sujet. Beaucoup dans la foule l'avaient méprisé et rejeté. D'autres restaient totalement indifférents à son égard. Et certains, venus de loin, ignoraient même qui il était. Aucune de ces attitudes n'honore Dieu.
Quelle attitude devons-nous alors avoir envers Jésus afin de pouvoir saisir la promesse du pardon de nos péchés?
Nous devons reconnaître que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Nous devons le laisser diriger nos vies, lui confier nos pensées, lui adresser notre adoration et notre reconnaissance. Nous devons nous engager à le suivre d'un cœur entier.
Passer de sentiments méprisants envers Jésus à une attitude d'amour représente un changement radical. Cependant, vous n'avez pas seulement parlé de ce changement, mais aussi de la nécessité du baptême. Expliquez-nous ce qu'est le baptême et pourquoi il est si important.
Le baptême est comme une parabole visuelle, une illustration vivante, nous aidant à comprendre ce qui se produit en nous lorsque nous nous tournons vers le Christ et le reconnaissant Seigneur de nos vies. Il est aussi une expression publique de notre foi intérieure.
Parlez-nous davantage du baptême en tant qu'image visible de la conversion. Qu'exprime-t-il?
D'abord, il représente l'image du pardon des péchés et parle de leur purification. Lors du baptême, nous sommes momentanément immergés dans l'eau. Or, cet instant illustre le fait que l'Éternel nous lave de nos péchés, et c'est en ressortant qu'il nous considère purs à ses yeux.
Il est important de préciser que l'eau elle-même ne nous lave pas de nos péchés, mais que ce rituel sert d'illustration de ce que l'Éternel a accompli sur le plan spirituel.
Oui, il est effectivement essentiel de le rappeler. Ensuite, le baptême représente l'image du changement radical qui s'opère en nous lorsque nous nous tournons vers le Christ. En descendant dans l'eau pour y être immergés, c'est comme si nous mourions à notre ancienne façon de vivre. C'est comme si nous disons au revoir à l'attitude négative qui fut la nôtre envers Jésus. Et en remontant à la surface de l'eau, c'est comme si nous commencions une nouvelle vie, cette fois-ci vécue avec Christ et pour Christ, conduite et animée par son esprit.
Donc l'Éternel a fait deux promesses à ceux et celles qui entreprennent cette démarche de foi en Jésus-Christ. Le pardon du péché et le don de son esprit. Rappelez-nous le rôle de l'esprit dans la vie du chrétien.
Voici un rapide tour d'horizon. L'esprit nous aide à connaître Jésus-Christ ainsi que le Père, l'Éternel. Il nous aide à vivre une amitié avec Dieu le Père et Dieu le Fils. L'esprit nous aide à comprendre la Bible, la parole de Dieu, et à chercher à la mettre en pratique. L'esprit nous aide à mener une vie juste et sainte. Il nous aide à produire du fruit, à produire un caractère à l'image de Christ. Et l'esprit nous aide à servir dans l'Église, en nous accordant des dons qui nous permettent de travailler pour l'édification de tous et du bien commun. Et enfin, l'esprit nous aide à parler du Christ, à témoigner de sa mort et de sa résurrection.
Merci pour ce résumé riche en instructions. Le jour où vous avez parlé à la foule, vous avez ajouté que cette promesse était adressée non seulement à eux, mais aussi à leurs descendants, comme à tous ceux vivant dans les pays lointains.
Oui, il s'agit là d'une promesse universelle, c'est-à-dire d'une promesse qui s'adresse à tout homme et à toute femme, sans exception. Elle est tout aussi pertinente pour nos auditeurs aujourd'hui que pour cette foule à laquelle je me suis adressé. Je voudrais donc vous interpeller aujourd'hui, chers amis auditeurs, et vous demander quelle est votre attitude envers Jésus-Christ ? Le reconnaissez-vous comme le Seigneur de tout et de tous ? Le reconnaissez-vous comme le seul Sauveur, comme celui en qui nous pouvons obtenir le pardon de nos péchés et la réconciliation avec Dieu ? Je voudrais vous encourager à changer d'attitude envers Jésus-Christ, à venir à lui et à l'aimer.
Merci Pierre, et nous pouvons annoncer que suite à votre prédication en ce jour de Pentecôte, 3000 personnes se sont tournées vers Jésus. Elles ont réalisé qu'il est Seigneur, se sont engagées à le suivre et se sont faites baptiser. La prochaine fois, nous parlerons de la vie d'Église de ces premiers croyants.
Merci Yann et merci Étienne d'avoir joué le rôle de Pierre. Nous rappelons que l'interview que vous venez d'entendre est imaginaire, mais que les réponses données par Pierre restent tout à fait vraisemblables. Elles cherchent à donner vie aux événements réellement vécus, relatés dans la Bible.
Bien plus tard dans sa vie, l'apôtre Pierre a écrit deux épîtres adressées aux chrétiens de son temps. Notre courte méditation biblique s'inspirera de versets trouvés dans ses écrits. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 6 à 8. Hélène va nous lire ces versets et ensuite Flavien nous fera part de ses réflexions.
Voici, en effet, ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en Sion, à l'angle de l'édifice. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Pour vous donc qui croyez, l'honneur, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale, à l'angle de l'édifice. Une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher, parce qu'ils refusent de croire à la parole. Il leur arrive ce qui était prévu pour eux. Ils tombent à cause de cette pierre.
En parlant de Jésus-Christ, l'apôtre cite un psaume dans lequel l'envoyé promis par l'Éternel est comparé à la pierre principale lors de la construction d'un édifice, comme un temple par exemple. La pierre principale sert de point de départ lors d'une construction et elle soutient l'ensemble de l'édifice. Sans elle, il ne pourrait pas y avoir de bâtiment. Toute tentative de construire quelque chose sans d'abord la poser serait vouée à l'échec. La pierre principale est donc essentielle. Autrefois, le peuple de Dieu venait adorer l'Éternel dans un temple imposant et magnifique situé à Jérusalem. Cependant, en interprétant ce psaume, Pierre affirme que ces jours sont passés et que dorénavant, l'Éternel est en train de construire un temple vivant qu'il appelle son Église, bâti sur et autour de la personne de Jésus-Christ. Ainsi, à l'image du temple de Jérusalem qui était magnifique et beau à contempler, Dieu veut que son nouveau projet, l'édification de ce temple vivant, constitué d'hommes et de femmes ordinaires, soit encore plus beau et plus admirable. Cependant, pour que les hommes et les femmes reflètent ainsi la gloire et la beauté de l'Éternel, une chose est essentielle, la foi en Jésus-Christ. Il est en effet la pierre angulaire, la pierre principale. Et pour faire partie de ce nouveau peuple de Dieu appelé l'Église, il faut croire en lui. Une Église, et je parle donc ici des croyants qui la constituent, une Église existe quand Christ est au centre, quand Christ est sa raison d'être, quand chacun de ses membres construit sa vie sur les fondements de son enseignement et à la lumière de sa croix. Une Église croit en magnificence et beauté quand elle cherche à adorer Jésus-Christ, quand les croyants aspirent à lui rendre gloire, à le suivre et à lui ressembler. On ne peut pas prétendre être un chrétien en écartant Christ de sa vie. De même, une Église où Christ n'est plus au centre, n'est plus une Église, elle est vouée à l'échec. Soyons donc un peuple, des disciples, des adorateurs, qui accordent à Jésus-Christ toute la place qui lui revient. Ensemble, construisons notre vie sur lui, autour de lui et pour sa gloire.
Merci Flavien. Il est vrai que si lors de la construction d'une maison, nous ne respectons pas la réglementation en vigueur, nous risquons d'essuyer des catastrophes plus tard. La maison peut présenter des malfaçons, avoir des fuites d'eau à travers les murs ou pire, s'écrouler. Il en est de même sur le plan spirituel. Nous devons être attentifs à la parole de Dieu, la mettre en pratique dans nos vies et nous souvenir de l'essentiel, la foi en Jésus-Christ.
Nous vous remercions pour votre écoute et espérons vous retrouver la prochaine fois. Au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.